Il y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Révolution.
Et ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
C'est passé, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy, alístense grafiteros, sensi, DJ, b-boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura, pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda, la mujer es destreza, valentía y rudeza, ¿quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza?
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, c'est l'émission Langue de Fronde, émission féministe, émission Meuf Gwyn Trans. Ce soir, pour cette émission de rentrée, on est Léa, Théo, Olga et moi-même, Maïk. Alors, vous n'allez pas beaucoup nous entendre en direct, car pour cette émission, on fait suite à l'émission de juin qui était sur l'enfermement et on vous propose un second volet avec une interview qu'on a réalisée cet été de Audrey Chenu. Donc, Audrey est féministe, Gwyn, prof de boxe, instit et ex-tolarde. Et elle raconte son expérience de la prison dans un livre qui est sorti il y a bientôt 2 ans maintenant, qui s'appelle Girl Fight. Et donc, on a eu la chance de pouvoir l'interviewer cet été. Et voilà, vous allez donc entendre pendant cette heure toutes les questions qu'on a pu lui poser et tout ce qu'elle a à nous en dire. Voilà.
C'est Audrey, si tu peux te présenter.
Ouais, je vais avoir 35 ans, je vis en Seine-Saint-Denis depuis un moment, puis voilà, j'ai écrit un bouquin qui parle de la tôle, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui.
C'est quoi le titre de ce bouquin?
Girl Fight, en anglais, voilà. Et en fait, ouais, j'avais envie d'écrire ce bouquin parce que donc, je me suis retrouvée en prison il y a 15 ans maintenant. Waouh! Wow. Ouais. Et du coup, j'y suis restée 24 mois. Et bah, quand j'y étais, j'ai cherché des témoignages de meufs en tôle et j'en ai pas trouvé. Alors comme d'hab, résister c'est créer. Donc j'ai créé ce que je trouvais pas.
Et est-ce que tu voudrais nous parler peut-être un peu plus. Comment ça s'est passé, l'écriture de ce bouquin, et comment tu l'as fait, et puis de quoi, toi, vraiment, tu avais envie de parler dans ce projet d'écriture?
Ouais, donc la dernière fois que je suis sortie de prison, parce que j'y suis allée 3 fois, c'était en 2002, et dès que je suis sortie, j'avais cette envie de publier un témoignage, même des témoignages, donc ce que j'ai fait directement, parce que j'allais pas attendre qu'il y ait un éditeur qui veuille bien de mes écrits ou je ne sais quoi, là, j'étais pas trop dans ce délire-là. Ça fait que je l'ai fait en DIY, en autoprod, et j'ai publié un recueil de textes qui s'appelle De l'ombre à la lumière, donc en 2003 ou 2004.
On peut trouver quelque part ou...
Ouais, il y en a peut-être encore dans 2-3 librairies à Nard, trucs comme ça, et puis sinon,
j'en ai... Sur des dames de presse, peut-être.
Ouais, sur des infocus, trucs comme ça, et puis voilà, moi j'en ai quelques-uns et je les donne à l'occasion, puisque voilà, il est amorti depuis ce recueil-là. Ce qui était important pour moi, c'était de publier... des textes donc de moi et aussi des autres détenus avec qui j'avais pu vivre ces mois d'incarcération et partager des choses fortes et elles avaient écrit aussi dans le cadre d'un atelier d'écriture au départ et puis un peu à l'arrache après entre nous à base d'exercices qu'on se donnait aux fenêtres de nos cellules quoi. Et donc j'avais envie parce que je me dis que seule je représente pas forcément je trouve ça mieux d'écrire collectivement et d'avoir des points de vue différents sur l'expérience carcérale.
Et du coup, t'as 10 ans, 12 ans après, tu as sorti Girl Fight. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 12 ans? Qu'est-ce qui fait que 12 ans après, tu es arrivé à cette publication-là?
Ah, c'est vrai que dit comme ça, ça paraît beaucoup d'années. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, j'ai bossé, j'ai pas mal bossé. Mais non, si ça s'est présenté donc, en 2012, c'est que j'avais un mi-temps à l'éducation nationale. Et voilà, je passais beaucoup de temps à la salle de boxe. Et il se trouve que c'est par la boxe que j'ai trouvé un éditeur, puisque c'est l'époque où on découvrait que les meufs faisaient de la boxe, là, début des années 2010 et tout, à fond. Et du coup, il y a pas mal de journaleux, tout ça, qui venaient traîner dans la salle. Et puis, donc, il y a eu ce casting pour France 4, pour un docu qui s'appelle Dans la salle de boxe, qui est hyper bien, d'ailleurs, avec 5 portraits de boxeurs, boxeuses. Et donc, moi, on m'a posé des questions, j'étais prise pour ce casting. Et après, la scénariste, journaliste qui avait fait mon interview... m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant qu'elle avait été très touchée par mon histoire et qu'elle était scénariste et qu'elle avait des amis producteurs, tout ça, et qu'elle voulait savoir si ça m'intéressait de faire un téléfilm à la base. Et donc moi, je dis bah pourquoi pas, ouais, j'ai du temps et tout. Bon, en vrai, j'aimerais mieux écrire un bouquin, mais bon, elle m'a dit ouais, mais si tu veux, on fera les deux, pas de soucis, voilà. Donc, quelques jours après, on a envoyé un pitch de quelques pages, là, et puis on a une option de production, tout ça, et puis après, bah, finalement, ça a traîné un peu, et puis toutes les chaînes télé ont refusé le script, quoi, finalement, ça rentrait pas dans leur case, probablement. Et voilà, donc on était un peu déçus, mais on me disait, non, mais on va trouver, faut continuer, tout ça. Je dis, bon, moi, en vrai, ce que j'aimerais, c'est vraiment écrire un livre. Et du coup, elle m'a dit, bah, bouge pas, j'ai un ami éditeur, c'est ce que ça, pour te faire plaisir. Voilà, donc la semaine d'après, j'ai signé aux Presses de la Cité, avec son ami éditeur, donc Abel, qui dirigeait la collection Témoignages. Voilà, c'était une maison d'édition que je connaissais pas, pour la petite histoire. Elle avait quand même demandé aussi à Calman Levy, à 2-3 autres, mais le meilleur contrat, c'était celui-là, apparemment. Donc c'est un contrat que j'ai partagé avec elle, hein, puisqu'on a écrit à quatre mains cette autobiographie. Ça m'a été imposé par elle, du coup, parce que ben, comme c'est elle qui m'a ouvert les portes, comme elle dit. Donc voilà, et c'est vrai que pour écrire un téléfilm, ben, j'avais besoin d'elle, donc à la base, moi, j'étais OK. Après, pour écrire le livre, j'aurais pu m'en passer, mais bon, elle estimait que non. Et du coup, elle a fait tout le boulot éditorial que j'ai pas eu à faire après avec l'éditeur en fin de compte. Donc ça revenait un peu au même que d'avoir des corrections à faire après. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'écrivais genre 50 pages et puis je l'envoyais par mail. Et à partir de là, elle me proposait des ajouts, suppressions et modifications que je validais ou pas. L'idée, c'est toujours que j'ai le dernier mot quand même. Mais à quel prix? Du coup, il y a eu beaucoup de batailles parce que ça a été très dur pour moi. Je voulais rien lâcher des choses importantes à mes yeux, qui pour elle n'étaient pas importantes ou trop radicales, politiquement ci ou ça. Enfin bon, voilà. Donc, parce qu'elle avait cette idée de « je connais bien le public, voilà, toi, tu es peut-être trop dans ton truc ». Et donc, bah ouais, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin quand même sur des trucs, mais sur l'essentiel, j'ai rien lâché, quoi.
Et du coup, t'es partie de... T'as tout écrit, voilà, c'est 300 pages, combien il fait, je sais plus, ouais, 300 pages, un truc comme ça, ou t'es partie d'écrits que t'avais déjà produits avant, enfin, ça s'est passé comment, le boulot d'écriture?
Ben non, comme je disais, donc j'avais l'intention de publier quelque chose depuis ma sortie, c'était vraiment un truc, voilà, qui était en moi, là, que je voulais faire, mais bon, après, le temps de trouver un logement, un boulot, hein, on se fait embarquer dans d'autres choses, et puis dans les luttes ici et là, enfin, bon, voilà, donc c'est ça ma vie, quoi. Et du coup, donc 280 pages, donc j'avais 3 cahiers d'écoliers remplis que j'avais gardés en prison, quoi, des espèces de journaux que je tenais.
Que tu avais écrit là-bas?
Que j'ai écrit là-bas.
Donc t'es partie de ça
pour... Donc je suis partie de ça. Et j'avais aussi des cabas entiers de courriers. Donc j'ai mis aussi des extraits de correspondance. Ça, c'était important pour moi dans le livre parce que c'était essentiel de mes échanges voilà, avec l'extérieur, quoi. Et donc il y a des bouts de lettres et puis il y a des bouts de ces cahiers dans ce livre. Et puis il y a aussi quelques morceaux de petits slams ou de trucs que j'avais mis dans le premier recueil.
Et quand tu dis que donc c'était tout un processus d'écriture, mais que finalement l'essentiel de ce que tu voulais dire était là.
Quel est cet essentiel?
Quel est cet essentiel? Non, mais enfin, toi, quand tu... Bon, depuis, tu as eu, j'imagine, l'habitude, parce que ça a été assez médiatisé, tout ça, mais quand tu dois présenter ce livre, mais aussi après, aujourd'hui, on peut parler de ce livre, mais aussi d'autres enfin, ton expérience en général, t'es pas forcément obligé de dire ce qu'il y a dans le livre, mais toi, en gros, c'est qu'est-ce que tu voulais faire passer de ton expérience, quoi.
Ben,
c'est un peu dur.
Ouais, c'est un peu plein de choses. Non, mais bon, je vais essayer de répondre et puis tu me relances si j'oublie. Quoi. Ben, l'idée essentielle, c'est celle du combat, en fait. Hein. Si ça s'appelle Girl Fight, c'est bien que c'est quand même l'idée centrale du bouquin, c'est ça, les combats. En tant que meuf, j'y tenais. C'est aussi par rapport au temps qui court, là, avec toutes ces valeurs... De l'extrême droite qui passe dans l'opinion publique et dans les médias et tout ça, moi j'avais envie de défendre d'autres valeurs, quoi. Effectivement. Et donc, parler de courage, parler de solidarité, parler de lutte. Et je voulais aussi parler de toutes les belles personnes que j'avais rencontrées dans ma vie et qui font ce que je sais aujourd'hui. Mais ça, on m'a pas laissé parce qu'il a fallu réduire le nombre de personnages. Parce que dans un roman, on m'a expliqué qu'en fait, s'il y a trop de personnages, tu captes plus rien au bout d'un moment. Donc il fallait garder 3-4 auxquels on peut s'attacher, s'identifier et puis virer tous les autres.
Alors ça t'avais pas vraiment... le droit d'avoir trop de personnages importants dans ta vie.
Non, c'est ça, on n'a pas le droit. Quoi. Normalement, t'as la famille, 2-3 amis, puis c'est tout. Et moi, j'avais une trentaine de rencontres importantes. Avec chacune, un truc vraiment fort. Et bien plus encore, hein. J'avais déjà sélectionné quand je dis 30. Mais bon, voilà, donc ça, c'était un peu difficile. Je voulais parler de ça, et puis surtout de ce truc de « ça y est, genre, t'as fait une connerie en France, t'es un putain de paria après, genre, t'as plus le droit d'aller... » Enfin, il y a plein de choses qui te sont interdites à cause du casier judiciaire que tu traînes comme un boulet au pied, et ça, c'est tellement injuste que ouais, j'avais envie de cracher d'être à chose là-dessus, et de dire que, à travers mon histoire, que ouais... donc je suis allée en tôle pendant près de 2 ans et que j'ai compris des trucs, j'ai eu envie de faire autre chose de ma vie et tout ça, et que je suis devenue prof, donc enfin stit en ZEP, hein, c'est pas non plus un truc trop
prestigieux. Et que t'as dû te battre pour avoir le droit.
Mais j'ai dû me battre même pour être dans les pires quartiers de ZEP où personne veut venir travailler, là j'ai dû me battre pour ça quand même. Et voilà, ce qui me rapproche de ces gosses avec lesquels je bosse, c'est que à eux comme à moi, à un moment donné, on m'a dit vous avez plus aucune chance de vous en sortir, quoi, vous êtes foutus, et c'est ça que je combats avant tout dans mon livre et dans mon travail et dans ma vie, quoi. Ces putains de préjugés, d'idées reçues et qui nous enferment, qui enferment les mômes, les femmes, toutes ces catégories qui sont créées pour mieux régner.
Et tu te positionnes comme féministe, et le féminisme, c'est quelque chose dans lequel tu te reconnaissais avant ton passage, ton séjour en prison. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est réveillé là-bas, après ?
Le féminisme, non, avant la tôle, je ne connaissais pas, en fait. Donc moi, j'ai grandi en Normandie, à mon adolescence, j'étais à Caen, donc dans une petite ville. Et j'avais pas du tout eu d'écho féministe de lutte ou d'écrit même, j'avais rien lu à cette époque-là, quoi. Et j'avais connu peut-être vite fait des lesbiennes de loin, dans mon lycée, quoi. C'était le élément perturbateur de l'hétéropatriarcat de mon adolescence. Et c'est plutôt là-bas, en fait, parce que avant de tomber, je faisais du trafic de stup, et du coup, je traînais beaucoup avec des gars. Et donc, j'avais un peu fait mienne leur vision du monde, à savoir que c'est eux qui avaient les couilles et qui avaient un peu accès à tout. Et puis, nous, on avait juste à les servir ou à se contenter des miettes, là. Du coup, je voulais être du bon côté à ce moment-là, hein, dans le rapport de force. Pas con. Donc j'étais à leur côté et j'avais bien sûr j'avais des amitiés avec des meufs et tout qui étaient importantes pour moi et voilà, mais en gros c'est ça. Et quand je me suis retrouvée en tôle, non mixité obligatoire, et grâce à ça finalement d'avoir vécu en non mixité, j'ai appris et compris plein de choses sur les meufs que j'arrivais pas à voir parce que j'étais dans... Enfin, j'avais pas le recul et j'avais pas les apports théoriques et les réflexions, les luttes pratiques, enfin tout, quoi. Et du coup, en prison, j'ai lu Angela Davis et 2-3 trucs comme ça qui m'ont fait tilt, genre « Ah ouais, mais c'est ce que je pense depuis tout le temps, en fait, mais je savais pas l'exprimer, tu vois, ce truc-là où t'as pas les mots et tout ça. » Et en lisant, mais ouais, c'est exactement ça.
Ça se fait l'effet que quelqu'un verbalise, que t'as toujours ressenti, mais que t'étais incapable de...
Exactement. Ouais.
C'est d'autres meufs qui t'ont donné ces bouquins et tout, ou comment ça s'est fait?
Alors, je crois que donc je traînais avec des prisonnières politiques pas mal, surtout une, Victoria, qui était donc espagnole et qui avait été incarcérée en France. Donc, alors elle apprenait le français un peu avec moi, avec d'autres, c'était pas évident. Et du coup, elle me conseillait des lectures parfois. Donc, j'ai lu Engels, sur la propriété, la famille, là, c'était vraiment bien ça. Et alors, je sais plus si c'est elle qui m'a conseillé Angela Davis ou si en traînant dans ce rayon qui était minuscule de révolutionnaires, là, dans la bibliothèque de Fresnes. Et du coup, donc, je sais plus si je tombais par hasard ou si c'est elle, mais en tout cas, c'est vrai que les lectures et les discussions avec cette prisonnière politique m'ont influencé dans ce sens-là. Et après ça, c'est plutôt en sortant, parce que j'ai pas connu de féministe en tôle, mais en sortant, j'ai cherché un petit peu donc la compagnie des meufs aussi un peu. Et j'étais surtout dans le réseau de solidarité de l'Envolée, donc à Fréquence Paris Pluriel, il y a une émission carcérale qui donne la parole aux détenus, et donc j'étais plus dans ces luttes-là, quoi. Et en fait, c'est plutôt les milieux totaux, etc. Et du coup, j'ai été assez égarée, effarée par le machisme qui règne, quoi, comme partout ailleurs. En même temps, je ne vais pas stigmatiser ce milieu, mais en tout cas, pour moi, c'était trop, quoi. Je pouvais pas... Moi, je sortais de tôle, et là, on essayait de m'enfermer, de m'asphyxier avec des oppressions machistes de merde. Enfin, ça m'a juste fait vomir. Donc voilà, et du coup, j'ai commencé à aller vers les féministes, quoi. Et puis c'est un peu par hasard aussi, mais comme j'avais dit, donc Angela Davis m'avait fait un peu un tilt dans la réflexion. Et donc, comme je faisais des études de sociologie, en licence, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire à l'option rapports sociaux de sexe. Et donc là, j'ai eu un peu l'apport théorique des féministes, depuis les années 60 surtout et jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça a été aussi une sacrée révélation, quoi, là, vraiment. Et donc il se trouve que cette prof qui faisait ce cours était Jules Falquet, et c'est par elle qu'ensuite je suis arrivée à La Barbare, qui est un endroit non mixte qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a duré plus d'une dizaine d'années, et où j'ai fait mes armes, et où j'ai appris beaucoup de choses à Montreuil. Ouais. Voilà, et en fait, donc elle m'avait invitée par hasard à une soirée là-bas, et puis c'est là après où j'ai construit tout mon féminisme, et puis bon, après, il y a eu tous les autres groupes dont j'ai fait partie, que tu connais aussi, voilà. Donc c'est ça, en gros, la genèse.
Et peut-être avant de continuer la discussion, on va faire une petite pause musicale, et Audrey, tu veux nous présenter une petite musique que tu veux passer, ou...
Ouais, justement, donc à La Barbare, j'ai connu aussi des musiciennes, et ce groupe qui s'appelle Les Armazones, qui était plutôt dans les années 90, qui n'existe plus aujourd'hui non plus. Et c'est un chouette groupe de meufs avec une super énergie, jazz, hip-hop, soul, donc un peu les styles de musique que j'aime. Et cette chanson, elle parle de la MAF, la Maison d'arrêt des femmes.
Capturer noie la vie dans l'ennui. Ici les mots riment tous avec interdit. Ici les cris, les grilles, tous les bruits tu louis. Oui, ici mon ami m'a écrit ceci à la merci de la lecture viole de son récit. Nourrir chaque jour, chaque minute, chaque seconde sa volonté de vivre. N'oublie jamais. Dépouillé de ton corps, dépouillé de ton esprit, dépouillé.
une chape de plomb coulée direct dans le béton carré. Coûte, coûte, que coûte, ils te cartonneront. Et coûte, que coûte, ils te casseront. Et coûte, que coûte, ils te cartonneront. Et coûte, que coûte, ils te casseront. Fouille palpation, voyeurisme incessant de surveillance.
Bonsoir, vous êtes encore et toujours sur FPP 106.3, sur l'émission Langue de Fronde, une émission Meuf Queen Trans. On est toujours avec notre invitée Audrey, et donc on voulait repartir peut-être un peu sur du concret. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type, enfin, je ne sais pas s'il y a des journées types que tu as vécues, ou un truc qui t'a marqué particulièrement en prison?
Ben, je vais plutôt raconter une journée lambda, et puis après ben, je vous parlerai des trucs forts qui peuvent arriver si on a le temps. Du coup, la journée lambda, donc moi j'étais dans plusieurs tôles des maisons d'arrêt pour femmes de la région parisienne, donc Versailles et Fresnes. Alors celle où je suis restée le plus longtemps, c'est Fresnes, c'est la plus dure, c'est la prison disciplinaire comme on dit. La particularité, c'est que bah, y a une MAF avec une centaine de femmes, il y a un hôpital pénitentiaire et il y a 5 bâtiments pour hommes, donc c'est carrément une cité pénitentiaire, on appelle ça. Il y a même des logements pour les matons, les matonnes, donc voilà, c'est assez particulier. Donc je vais raconter celle-là. Et donc à 7h, il y a une espèce de grosse sirène, un peu comme celle qu'on entend le mercredi là, des pompiers.
Le mercredi, ouais.
Voilà. Et sauf que là, c'est tous les matins, et que du coup, t'es censé sortir de ton lit au moment de la sirène, parce que, bon, selon où t'es dans l'aile, hein, donc il y a plusieurs étages et tout ça, et donc il y a un chariot avec des détenus qui travaillent donc dans la prison pour faire la cuisine et servir les repas, là. Et du coup, bah, le chariot, il passe avec une matonne pour ouvrir la clé. Genre, selon si t'es au début ou à la fin du couloir, ça peut être 5 minutes ou 20 minutes après l'alarme, là. Donc, t'es censée être prête avec ton bol devant la porte, être un peu habillée et avoir fait ton lit. Bon. Voilà, ça, c'est la théorie. Si jamais t'es pas levée, ben, en fait, t'as pas de petit-déj, donc quand même, t'es un peu obligée. Voilà. Et donc, bah, si t'as de la chance, c'est jour de douche, tu vas à la douche. Mais bon, comme c'est que 2 ou 3 fois par semaine, c'est souvent pas jour de douche, quoi. Donc voilà, le petit déj, donc tu donnes ton bol, on te met une louche d'eau chaude et après tu peux donc avoir du café ou du thé, voilà. Et puis on te donne une baguette de pain, un petit beurre, et le reste il faut cantiner si tu veux améliorer ça, si tu veux du sucre, si tu veux du lait, si tu veux.
Cantiner, tu peux...
Ouais, cantiner, ben, c'est-à-dire que t'as pas d'argent dans la tôle, mais t'as de l'argent sur un compte et que tu dois passer des commandes. Pour avoir les produits ordinaires que tu as besoin au quotidien, du PQ au dentifrice, en passant par les timbres, les clopes et tout ça, quoi. Les bonbons.
La confiture.
Confiture.
Bon. Et du coup, ça, c'est le matin.
Donc, voilà. Donc, moi, j'étais une détenue qui ne travaillait pas à l'atelier, parce que sinon, après, les détenus vont à l'atelier pour travailler pour 100 € par mois en travaillant 40 heures par semaine.
C'est pour ça que toi, t'as décidé de ne pas travailler
Bah, moi, j'ai pas travaillé parce que déjà, j'avais mis de l'argent de côté dans mon trafic, donc j'avais pas besoin, en vrai. Ensuite, j'ai compris que pour sortir plus vite, il valait mieux travailler quand même. Et donc, je suis allée à l'atelier, hein, j'y suis allée 1 ou 2 jours, mais comme j'ai un petit problème avec l'autorité, c'était un peu compliqué. Parce que t'as des contre-maîtresses qui sont des détenus, mais qui sont payés plus, et enfin, vous voyez comment ça tient le système, quoi, hiérarchique, que ce soit même dans les camps, c'était comme ça déjà. Enfin, donc ça, c'est un peu dur pour moi, donc je préférais pas y aller. Et par contre, j'avais la chance d'être jeune détenue, donc moins de 21 ans, et donc on me propose des formations. Donc maison d'arrêt des femmes, formation esthéticienne, vendeuse, secrétaire. Bon, alors j'ai choisi secrétaire, c'était quand même moins pire. Et puis ça m'a permis d'apprendre l'informatique, ce qui accessoirement était plutôt bien, parce que c'était l'an 2000, hein, et que ça commençait un peu à venir là. Donc voilà, moi j'ai fait cette formation qui était rémunérée à peu près comme les ateliers. J'avais un peu moins d'heures, j'avais même pas 35 heures dans la semaine pour aller en formation. Alors il y avait une formatrice de l'AFPA par exemple, et puis des gens comme ça qui
venaient. C'est quoi l'AFPA?
Bah, c'est un service de formation continue pour adultes qui est à l'extérieur, existe aussi, et qui ont des antennes donc, dans les tôles. Voilà, donc moi j'allais en formation. Après, quand tu travailles, tu as une seule promenade, c'est à midi, entre je sais pas, midi et demi et 13h30. Avant ça, tu as le repas du midi, donc pareil, donc on vient te donner dans ta cellule, on vient te mettre une grosse louche là qui fait splash dans ton assiette. Puis si tu as la télé, bah, tu regardes, enfin tu manges en regardant la télé ou la radio, mais tout ça, faut payer bien sûr.
La radio aussi ?
Bah oui. Il faut acheter ton poste de radio et puis c'est dans un catalogue où ça coûte, je sais pas pourquoi, mais deux fois plus cher que dehors, quoi. Mais t'as pas le choix du fournisseur, donc voilà. Et puis ensuite, bah, du coup, tu retournes bosser. Et après, jusqu'à 16h30, 17h. Et là, ben, du coup, après, il y a le repas qui arrive vers 17h30, le repas du soir. Et après, quand elles ont récupéré, elles récupèrent ta poubelle aussi, des trucs comme ça. Et à 18h, c'est fini, quoi. Les portes sont fermées complètement. Et tu sais que les matones, elles ne peuvent plus t'ouvrir, quoi. Elles n'ont plus les clés. C'est qu'en cas d'urgence, que les gradés peuvent venir ouvrir ta cellule, en cas de problème. Mais bon, des fois, ils mettent quelques jours.
T'étais en cellule individuelle ?
Alors, à Fresnes, on est toutes en cellule individuelle. Mais à Versailles, j'ai été en cellule de 6, de 4 et de 2. Et cellule de 6, t'as pas le choix, c'est la cellule arrivante quand t'arrives. Comme ça, en fait, ils étudient comment tu te comportes avec les autres aussi, pour voir avec qui ils vont te mettre, dans quelle aile, tout ça. Voir un peu ta dangerosité, ta sociabilité aussi. Donc c'est ça, en gros, la journée type. Et donc à partir de 18h, bah, t'es tranquille pour fumer des joints, ça c'est bien. Tu sais qu'ils vont plus ouvrir la porte, voilà, ou ouais, pour téléphoner si t'as un fun tel dans la cellule. Ça rentre aussi, hein, de plus en plus. Et puis sinon, bah, moi j'écrivais du courrier, je mettais du hip-hop à la radio, voilà. Quand j'étais avec une collègue, bah, une co-détenue, bah, on tchatchait, on rigolait, on se racontait nos vies, tout ça. Et puis, bah après, le lendemain, rebelote.
Donc ça, c'est des journées types. Et après, est-ce que... Enfin, ça, c'est pas tout le temps été que comme ça. Et c'est quoi des moments...
Non, parce
hyper,
que...
Enfin, tu te rappelles. Bah, en fait, hyper important ou hyper trash ou...
Ouais, il y a plein de moments où ça peut partir en vrille. Parce que déjà... ah oui, ce que j'ai pas dit dans... C'est comme à chaque fois que tu sors de ta cellule, déjà, tu dois te mettre contre le mur et tu te fais palper par la surveillante. Si elle a envie ou si un truc la fait chier chez toi, bah, elle peut aussi te mettre complètement à poil et tout ça. Voilà, c'est un soupçon de quelque chose. Donc bah, ça, souvent avec moi, ça part en vrille parce que ça me saoulait. J'ai pas envie de me mettre à poil devant elle et tout. Donc voilà, je ruais un peu dans les brancards, je les insultais et tout. Donc après, des fois, j'allais au mitard direct quand c'était trop violent. Et sinon, bah, elle me remettait dans ma cellule, je prenais un rapport et après je passais donc au conseil de discipline, au prétoire. Et puis bah, souvent j'avais du sursis parce que je tchatchais bien, mais j'y suis allée quand même pas mal de fois, pas mal de jours. Ouais, puis du coup la nuit aussi, parfois il se passe des trucs. Par exemple, une nuit, il y a une détenue qui a accouché dans sa cellule. Donc on a tout tapé et tout ça pour que les gradés viennent ouvrir là, et puis malheureusement bah, ils ont mis du temps à venir. Donc la personne a couché dans sa cellule, quoi.
Toute seule.
Toute seule, voilà. Et puis une autre nuit, y avait une détenue, une jeune détenue qui avait quoi, 16 ans, ma pote Siam, elle a pété un câble, quoi, parce que juste d'être en prison, elle était pas aussi solide et tout que nous, puisqu'elle avait 16 ans. Et puis, bah voilà, elle a eu un moment, elle a pété un câble, elle a mis le feu à sa cellule. Au départ, c'était pour rigoler, c'était même pas une tentative de suicide, mais bon, voilà. Et du coup, elle a failli y rester aussi, parce que le temps qu'ils arrivent pour ouvrir, heureusement, elle s'était planquée dans sa couverture, elle avait réussi à faire des trucs pour étouffer un peu le feu. Et donc voilà, là, ils sont arrivés en urgence également cette nuit-là. Une autre nuit d'émeute que je raconte dans le livre, voilà, où pareil, ils avaient coupé l'électricité à une détenue qui faisait une crise d'angoisse, hein, ce genre de trucs qui sont plutôt des choses banales dehors, mais quand t'es enfermé, bah, ça peut dégénérer vite, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, du coup, ce que tu racontes effectivement dans le livre, mais...
Bah ouais, nous, on a pris les balais, on n'a pas grand-chose dans la cellule, donc les meufs, elles ont dit « attrapez les balais, faites du bruit », et du coup, on faisait du boucan d'enfer sur toutes les portes de la tôle, et puis ça résonne et tout, donc ils ont fini par venir, les robocops, comme on dit.
Ils ont remis le courant.
Ouais, ouais, ils l'ont remis. Ouais. Après, bah, y en a certaines qui ont eu des problèmes après ce truc-là, mais... Bon, moi, je me suis fait ma meilleure pote cette nuit-là, quoi. Du coup, la meuf qui faisait la crise d'angoisse, c'est devenue ma pote après. On est partis en cellule ensemble. Et voilà. C'était bienvenue en prison.
C'est quoi les moments un peu que vous avez pour socialiser entre meufs dans le lieu ?
Ben, du coup, il y a juste l'heure de promenade quotidienne. Et alors, selon les tôles, des fois, t'as en plus une heure de bibliothèque. À Fresnes, c'est l'un ou l'autre, par exemple. Donc, t'as qu'une heure par jour pour socialiser. Donc voilà, moi c'est ça aussi que j'avais envie de montrer. Au final, encore là, il y a un mois, j'intervenais dans un lycée avec des jeunes et ils me disaient « C'est quoi le truc matériel qui vous a le plus manqué ?» Je dis « Mais les jeunes, c'est pas un truc matériel qui m'a le plus manqué en fait, c'est ça, c'est les échanges avec d'autres, c'est de discuter, c'est de la chaleur humaine, c'est tout ça qui m'a le plus manqué. »
Et t'as gardé contact avec certaines de tes ex-codétenues ?
Ouais, carrément, et là c'est marrant parce que grâce à Facebook j'en ai retrouvé une et je vais la voir la semaine prochaine et ça me fait trop kiffer parce que Hanan, c'est un truc de malade, elle est restée 3 mois et elle me dit qu'elle a jamais autant ri de sa vie que pendant ces 3 mois et en effet moi je me souviens aussi que c'était vraiment une parenthèse dans ma peine qui était plus longue donc et que ces moments avec elle c'était un truc de dingue quoi, je sais pas, on était en mode blague de potage quoi, un peu colo et tout, mais en fait moi j'en avais marre, ça faisait quand même 6 mois que j'y étais donc j'étais dans une espèce de dérision, cynisme qui faisait qu'on s'amusait bien quoi. Et voilà, donc je suis ravie de la retrouver. Et puis ben Leïla, enfin plusieurs avec qui j'ai passé du temps, mais au final mon féminisme radical m'éloigne aussi de certaines personnes parfois. Donc c'est ça, quand on parle d'enfermement, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de meufs en tôle parce qu'elles sont déjà tellement enfermées dehors que voilà, c'est ça qui fait que j'ai pas forcément d'affinité aujourd'hui avec les meufs avec qui j'étais en tôle il y a 15 ans.
Et est-ce qu'on fait une pause maintenant musicale ou alors on...
Ouais, on fait...
Donc là, tu fais une petite pause, Audrey, si tu veux
nous présenter donc un morceau de slam, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Donc en prison, j'ai commencé à écrire surtout de la poésie, du slam et... Ce texte-là, je l'ai écrit là-bas, en fait. Et puis, bon, après, comme je sais pas si vous savez, mais quand on écrit, souvent, quand on relit les choses qu'on a écrites il y a longtemps, on trouve ça pourri, donc on réécrit. Donc, ce texte a été réécrit plutôt récemment. Et voilà, ça s'appelle Suicide à l'ombre. Et ça vous parlera peut-être plus que tout ce que je dis là.
Fresnes, Fleury, Rennes, Lyon, Loos, Rouen, Marseille sont les prisons où on suicide le plus. Là où les droits de l'homme sont en veille, peut-être que les matons touchent des bonus. En l'an 2000, toujours d'après les statistiques nationales de la torture légale, tous les 3 jours, un détenu quitte cette terre, ultime transfert pour le cimetière. Sans oublier le millier de tentatives par jour, de plus en plus de candidats pour un aller sans retour. Les vautours de la répression stupide seraient-ils devenus trop cupides? Avaler de l'eau de Javel, une fourchette de cachet ou se pendre au-dessus de la poubelle? 1000 manières de rendre l'âme, comme se tailler les veines à coups de lame. Les causes sont diverses, la détention perverse, mais le but est commun, quitter ce monde inhumain. Préférer la tombe à la cellule, le repos éternel au combat incessant de la vie en zombie. Briser les chaînes du temps, de l'espace, du système en place, seule issue pour sortir de l'impasse. Partout du béton, porte blindée, barreaux d'acier, privé d'horizon, je perds la raison dans cet univers aseptisé. La vie sans liberté me faisait aimer la mort. Normal dans ce décor, cette prison cannibale me dévore. Voyage au bout de l'enfer, du décor j'ai vu l'envers. Enfermé c'est l'enfer, mais que faire? Depuis que les hommes ont forgé le fer, s'enchaînent les affaires. La punition a nourri notre terre, sèche et mortifère, elle nous lacère. Quant à moi, j'étouffe, j'ai besoin d'air. Boule de soufre, ainsi coule mon souffle. Hors du gouffre pour mettre des gifles à tous les faux. Tu les siffles, ils font leur show du genre, ils ont tout fait, tu parles, ils ont tout faux. Qu'ont-ils dit des détenus qui ramassent des mégots sur le sol pour en faire une cigarette? Des autres qui te balancent si tu partages pas ta barrette? Du baratin, des beretta, plein de blabla sur des gens qu'ils ont péta à force de gonflette et leur sœur est branlette. Silence devant les sanglots d'une femme qui souffre. Silence devant les sanglots qui ligotent une prisonnière. Silence de mes semblables quand j'étais seule au fond du gouffre. Silence devant la double peine d'une sans-papière. La vie hurle dans un silence de mort. Des bruits de clés, de portes, de cris, de bottes dont l'écho m'escorte dans tous les couloirs de ma vie. Violence intellectuelle, torture psychologique, tourment plutôt abstrait mais pas virtuel. L'arme des temps modernes, L'isolement associé à cette somme de petits riens, tout est mis en place pour nous mettre la pression, nous donner l'impression de n'être plus rien. Où trouver la volonté, la force de remonter chaque fois qu'on te rabaisse à chacune de leurs bassesses. Quand le passé me poursuit, je cours sous la pluie, comme pour éloigner mes démons, mes ennemis, de prisonnières basques pour seule compagnie, ancienne marathonienne, complice d'évasion de ma prison de haine. À nos amitiés retranchées, à celle qui est née quand elle a tué, refusant la culpabilité qui ronge dans un monde sourd, à nos colères qui grondent. Condamnée à mourir d'ennui, elle m'a fait mourir de rire derrière les murs de l'oubli. À celle qui chargeait son arme d'idéaux, crachait des balles et non pas que des mots, des rafales et non pas que des beaux discours. Sortira-t-elle un jour ? À celle qui ruait dans les brancards, défendait les plus détestés, les plus démunis quand elle n'était pas occupée à narguer l'ennemi. Aussi forte qu'effrontée, aussi fière que solidaire, rien ne pouvait nous arrêter. L'esprit mutin, elle m'a appris à me faire du bien, même en pleine guerre, ses couettes comme des cornes de diablotin. À nos amitiés retranchées, nos pieds nés à une administration bornée, rendue borne par nos solidarités, rendue borne par nos solidarités, aux éclats de rire, aux discussions fortes qui résonnent après la fermeture des portes. J'en ai pris des rapports. Perché dans son mirador, même une matone s'est donné la mort. Au sourire volé, au courrier qu'on échange, à ces moments étranges où l'espoir étranger s'invite, où la rage aurait pu m'étrangler.
Rebonsoir, vous êtes toujours sur 106.3, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Langue de Fronde, et on continue donc l'interview avec notre invitée Audrey, qui a écrit Girl Fight sur son expérience de 2 ans en prison. Et du coup, là, on voulait te demander un peu, de ton point de vue, c'est quoi la spécificité, comme disait Clarisse avant qu'on fasse l'émission, quand on pense femmes et prison, on pense aux femmes qui sont dans le travail du care, qui vont les compagnes, les sœurs, les maris, les femmes, les sœurs, les compagnes, les filles qui vont voir le mec en prison, au parloir, et etc. Et on pense moins à femmes derrière les barreaux. Et du coup, Audrey, qu'est-ce que tu dirais sur la spécificité d'être une meuf en prison ?
Déjà, c'est que comme tout est toujours pensé par rapport au masculin, donc à l'universel masculin, n'est-ce pas ? Donc la prison des femmes, elle est vraiment sur ce modèle-là. Et du coup, il y a des choses aussi que tu peux avoir besoin en tant que meuf et que tu ne trouveras pas, quoi. Donc, par rapport à la féminité, déjà, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de prendre soin d'elles, par exemple, de se maquiller ou de se coiffer, des choses comme ça, et que ça, déjà, elles peuvent pas. Enfin, c'est compliqué pour commander des produits, etc. Et du coup, voilà, il y a cet aspect-là. Bon, moi, ça me concernait pas parce que je suis butch, mais quand même, voilà, ça m'a touchée par rapport à elle, quoi. Surtout aussi pour les meufs racisées, quand on leur prend direct leur perruque, leur rajout et tout ça. Enfin, voilà, elles n'ont pas le droit là-bas parce qu'elles pourraient planquer des choses dedans. Donc, c'est un peu... voilà, comment on nie l'individu et puis ses besoins et tout ça. C'est assez frappant par rapport à ça. Mais le plus relou, on va dire, c'est ce sexisme ordinaire, structurel qui est dehors, qu'on retrouve dedans, quoi. Et du coup, y a un paternalisme de la part des gradés, donc des hommes, et aussi des femmes qui nous surveillent.
Il y a des hommes qui vous surveillent, vous
avez... Donc nous, les surveillantes, du coup, qui peuvent te fouiller, venir dans ta cellule et tout, c'est toujours des femmes, mais leurs chefs sont toujours des hommes, pratiquement, avec quelques exceptions près. Et ce qui fait qu'on les appelle les gradés, donc eux, ils ont quelques trucs en plus, là, comment ça s'appelle ?
Des épaulettes,
des petites étoiles.
Des barres, des signes honorifiques de grade. En tout cas, dans l'administration pénitentiaire, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, voilà. Et eux, ils sont super relous. C'est eux qui te reçoivent quand il y a des incidents. C'est eux qui sont au conseil de discipline. Et du coup, avec moi, c'était vraiment en mode, on va vous éduquer ici. Tout ce qu'ils m'ont proposé, c'est du dressage, en vrai. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai envie de travailler dans l'éducation après. Parce que franchement, si c'est ça, l'éducation, ça fait peur. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect que quand un mec va en taule, la plupart du temps, enfin moi en tout cas dans les quartiers populaires où je vis, où je travaille, il prend une médaille, quoi, c'est la fierté du quartier. Puis quand il ressort, elle est bien. Puis quand il est dedans, tout le monde lui envoie des trucs, etc. Une femme qui sort de prison, il n'y a pas de médaille à la sortie, quoi. Il y a juste le vide et la rue, souvent. Donc, il y a très peu... Alors, comme on est le parent pauvre, comme on dit, de la tôle, parce qu'on est juste 4% de la population carcérale, donc tous les dispositifs dont peuvent bénéficier les hommes détenus ou ex-détenus, parce que ça se joue aussi après pour la réinsertion. Par exemple, des foyers d'accueil et tout, quand tu sors, y a très peu de place pour les femmes, donc voilà, il y a très peu de dispositifs d'insertion après. Et puis pendant, y a aussi très peu d'activités culturelles, sportives, très peu de boulot aussi, hein, quand je parlais des ateliers, mais des fois, il n'y avait même pas assez de boulot pour tout le monde, donc il y a des meufs qui étaient au chômage, etc. Et ce qui veut dire pour elles, quand c'est des migrantes qui ont un lien en France, etc., ça veut dire c'est quoi, la prostitution ou des choses comme ça, quoi, ou faire l'esclave pour d'autres détenus, donc c'est bien hardcore, quoi. Donc il y a moins de choses à l'intérieur, moins de choses après, et puis tout le, donc ce que vous disiez c'est vrai, quoi, les femmes, quand on pense femmes et prison, on pense femmes de parloir par exemple, parce que quand je suis allée voir un ami en tôle en sortant plus tard, moi je voyais la file des femmes devant le parloir, j'étais juste vraiment surprise, quoi, parce que nous on était très peu à avoir des parloirs.
Il y a très beaucoup moins de monde.
Il n'y a pas de file, il n'y a aucune file devant.
Est-ce que vous aviez moins de droits à des parloirs ou il y avait moins de personnes
qui... Non, on a les mêmes droits des parloirs. Là-dessus, sur les droits, tu sais bien qu'on a toujours tous les mêmes droits dans ce pays. Hein. Voilà. Après, dans les faits, qui c'est qui a du temps, qui c'est qui pense aux autres, qui c'est qui s'occupe des autres, comme tu l'as dit, le care, c'est les femmes, quoi. Donc voilà, qui c'est qui vient nous voir. Si des fois il y a nos mamans, hein, c'est les seules en général qui tiennent, et encore, pas toutes, malheureusement, elles ont aussi leurs problèmes et leurs fardeaux dans ce système patriarcal, mais voilà, et puis ça peut être des frères, des sœurs, plus rarement, mais ça a été le cas pour certaines, un amoureux. Et en général, l'amoureux, il tient pas longtemps. Il va vite en trouver une autre qui est libre, et voilà. C'est ce qui s'est passé pour la plupart des hétéros avec qui j'étais incarcérée.
Et je crois aussi que le fait qu'il y ait beaucoup moins de prisons pour meufs en France que de prisons en général, ça fait qu'il y a plus d'éloignement pour les familles, non ? Pour
venir. Ouais, tout à fait. Ouais.
Plus de déplacements à faire pour aller au parloir.
Pour les maisons d'arrêt, donc pour les petites peines ou pour les peines en instruction, comme c'était mon cas, ça va parce que tu as une maison d'arrêt, donc il y a toujours un petit quartier femmes, quoi. Donc je crois que c'est par département, je sais plus. Par exemple, à Caen, donc là où j'ai grandi, où j'aurais dû être incarcérée, c'est mon affaire, concernait pas la région parisienne, si tu veux. Il y avait un quartier femmes avec 8 à 12 femmes en moyenne. Donc voilà, bienvenue à Boffland, hein, en général, c'était quand même du lourd. C'est-à-dire donc les femmes incarcérées pour des choses, des crimes par rapport à la complicité d'infanticide ou ce genre de choses. Voilà, quelques meufs toxico en galère et tout, comme on pouvait côtoyer, mais disons que c'est plus limité. Et après, donc pour les longues peines, donc il n'y a que 3 centres de détention en France pour les femmes. Donc tu as Paume, tu as Rennes et le troisième qui est plutôt dans le sud, centre-sud de la France, je sais pas. Enfin bon, en tout cas, c'est très loin et donc forcément ça occasionne beaucoup de frais. Et moi, même si j'ai payé beaucoup de parloirs déjà, parce que Paris-Caen, faut faire le trajet, trouver un hébergement, vu les horaires de parloirs et tout. Donc ma mère, elle pouvait pas se permettre déjà.
C'est quoi les horaires de parloirs ?
En fait, il faut réserver, il faut appeler un espèce de répondeur téléphonique. Et donc, normalement, c'est une demi-heure de parloir. Donc tu vois, ta famille, elle vient pour une demi-heure, un peu les boules. Alors après, comme c'est 3 fois par semaine, si elle peut, elle peut venir 3 fois de suite, le lundi, le mercredi, le vendredi. Et après, donc, quand tu as éloignement géographique, donc comme c'était mon cas, je crois que c'était à partir de 200 km, ils comptaient, ça va, on était à 260, un truc comme ça. Et du coup, là, tu as le droit à un parloir double, mais il faut faire la demande un mois avant, il faut que ça soit validé par la hiérarchie et tout ça. Et donc, je raconte aussi dans le livre une anecdote comme ça, où un jour, j'attendais grave ma mère et mon petit frère, surtout, parce qu'elle devait le ramener au parloir. Il avait 10 ans, bon, c'était aussi un choix difficile, mais qu'on a fini par faire au bout d'un an de détention, quoi. Et là, à la fin de la première demi-heure, ils ouvrent la porte et ils disent que c'est fini, quoi. Et du coup, moi, j'ai pété un câble parce que comment ça, normalement, j'ai le double et tout, et c'est pas fini, y a pas moyen, voilà. Et du coup, ils m'ont sorti manu militari avec ma mère qui était dégoûtée.
Devant ton petit frère.
Voilà, donc... Donc c'est comme ça que ça se passe, quoi. T'as des droits, mais après, t'as toujours l'arbitraire qui prend le dessus. Et selon ton comportement, docile ou pas, il y a beaucoup de choses qui changent, quoi. Moi, j'ai beaucoup de potes aussi, des mecs en prison qui étaient un peu des meneurs, voilà, des meutes sur les conditions de détention et tout ça. Et eux, ben, c'était pire parce qu'ils se faisaient tabasser, quoi. Il y a ce qu'on appelle la haie d'honneur, là, avec les matons qui se mettent de chaque côté, puis qui les tapent tous un par un. Enfin, bon, voilà, des choses... des violences physiques, moi, j'ai pas trouvé à subir de la part de la matonnerie. Mais beaucoup de brimades, de vexations, de mesquineries. Et aussi, on m'ôtait des droits, quoi. Genre, si j'avais insulté de maton, le lendemain, elle me supprimait la douche et je pouvais rien faire. C'était comme ça, donc... Donc voilà, au quotidien, faut tenir le coup, quoi.
Et est-ce que tu aurais envie, Audrey, qu'on parle de, par exemple, toi, aujourd'hui, comment tu vois l'enfermement, ou plus précisément la lutte contre l'enfermement? Qu'est-ce que toi, tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie pour continuer à te battre contre ce système qui enferme les meufs? Que ce soit en prison, ou à l'intérieur, ou à l'extérieur.
Bah, il y a tellement de choses. On va essayer de faire le tour rapidement. La première chose, c'est le courrier. Donc voilà, ça m'arrive encore d'écrire à des meufs en tôle. Ensuite, il y a les mandats. Envoyer un peu d'argent. Donc ça peut se faire soit à des détenus que tu connais, soit par des réseaux de solidarité qui se mettent en place. Et notamment, j'étais à Rennes pour un débat, là, il y a quelques mois. Et puis, suite à la soirée qu'on a partagée, après, il y a des meufs qui se sont mis en contact avec des détenus. Et puis, il y a un partenariat qui s'est fait où, voilà, il y a des échanges. Alors, je ne sais plus trop exactement, mais je sais qu'il y a du courrier, il y a de l'argent qui circule, il y a du soutien sous plusieurs formes, quoi, concrets et réels, là. Et donc ça, c'est cool. Après, moi, ce que je disais aussi, là, j'ai rencontré une fille récemment qui me disait qu'elle avait été chanter du gospel en tôle. Alors bon, j'étais un peu sceptique aussi, parce que bon, faut voir aussi comment on fait les choses. Mais en général, quand je connais des groupes, des gens qui font de la musique et tout, je leur dis, allez faire un concert en tôle, quoi. Parce que en fait, on n'y pense pas, mais ça fait du bien, quoi. Quand t'es dedans, d'avoir un peu aussi d'apport culturel, quoi, de se nourrir autrement que par la télé, la radio, etc.
C'est pas trop compliqué en tant que groupe, du coup, d'obtenir les autorisations pour aller jouer en prison ?
Non. Enfin, okay. Si t'as pas de casier, si personne n'a de casier dans le groupe, ça va, quoi. Mais ils font quand même une petite enquête, évidemment. Ils laissent pas rentrer n'importe qui. Mais bon, une fois que t'as fait l'enquête, tu peux tourner dans pas mal de tôles aussi, parce que c'était validé nationalement. Enfin, bon, t'as plein de choses.
Okay.
Donc, faire des concerts, apporter des bouquins. Parce que ce que je disais, c'est que j'ai trouvé 2-3 bouquins chouettes dans ma détention en 2 ans. Mais que la plupart, c'est la bibliothèque rose et des trucs pourris, quoi. Donc voilà, si on peut ramener des bouquins en tôle, c'est cool.
Tu sais si ton livre, il a pu entrer ?
Je sais qu'il a entré, parce qu'il y a des détenus qui m'ont écrit, en fait, de quelques maisons d'arrêt. Donc j'ai commencé une correspondance avec certaines aussi. C'est beaucoup des meufs, après, qui ont aimé mon livre, quelque part. Vous savez, ce truc de l'universel masculin, ça marche pas quand c'est une meuf qui écrit, quoi. Donc, je veux dire, quand c'est un mec qui écrit, tout le monde est à fond, et quand c'est une meuf qui écrit, il y a pratiquement que les meufs qui sont à fond. Donc, voilà. En gros. Après, sur les trucs à faire, moi, quand j'étais jeune, j'allais balancer du shit par la fenêtre, parce que c'est aussi un truc, un moyen de survie en tôle, voilà. Bon, maintenant, je le fais plus, parce que... c'est un peu... ça craint pour ma carrière. Donc, j'ai pas trop envie à faire la justice et tout ça. Mais après, qu'est-ce qu'il y a encore
Parce qu'aujourd'hui, du coup, après ces années en tôle, t'as fait ensuite du slam, de la boxe. Et après, t'as aussi eu... t'as pu être instite. Du coup, ça fait plusieurs choses aussi autour de un peu la transmission de... de choses différentes, oui. Qui sont pas forcément directement liées à la tôle, mais...
Non, c'est ça, mon combat est plutôt indirect, quoique depuis la publication du livre, du coup, on m'appelle parfois pour des trucs demain, donc je vais avec des jeunes qui sont enfermés dans un centre pour mineurs, là, et puis on va faire un débat sur, un peu autour de mon histoire et autour d'eux aussi, et comment trouver des chemins pour s'en sortir, là. Alors bon, ça, c'est un peu chiant, parce qu'il y a des éducs qui m'appellent des fois, genre, venez sauver nos filles qui galèrent, là, nos ados en perdition, et je leur dis que j'ai aucune solution miracle, et que juste moi, j'ai raconté un chemin que j'ai pris, ou des chemins, et que les jeunes, ils vont trouver le leur, quoi, à un moment, mais moi, je peux toujours toujours aller leur parler parce que je kiffe parler aux jeunes et que j'ai envie de partager cet espoir aussi que moi j'ai pu vivre, quoi, que les choses sont possibles quand tu te bats et que tu as des bonnes personnes autour. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas non plus de rédemption dans cette histoire, donc c'est toujours compliqué de se situer entre les deux. Quoi. Mais c'est vrai que mon combat est dans l'éducation, parce que voilà, c'est une façon que je pense pertinente pour changer les choses aujourd'hui. Et il est dans la boxe, dans le slam, parce que comme je disais, comme les meufs sont fermées, déjà la première chose en tant que meuf, c'est d'être dans l'espace public et de cracher ma colère et les choses que je subis, que je vois chaque jour. Et la boxe, parce que ça suffit pas, l'esprit à un moment donné, il faut que le corps aussi soit un allié, parce que je parle de ça, moi j'étais longtemps dans l'autodestruction, hein, c'est pas genre je fais du sport toute ma vie, hein. Donc avant de taper dans le sac de frappe, j'ai tapé la tête dans les murs et les mains lacérées et tout ça, donc voilà, c'est aussi un moyen de canaliser, d'extérioriser, et puis d'en faire quelque chose, d'en tirer une puissance, en fait, de cette colère, et de pas la retourner contre moi-même, comme j'ai pu faire par le passé. Ça, c'est hyper important. Et puis, de prendre conscience de sa puissance, là, de sa force physique et de sa capacité à réagir, c'est hyper important en tant que meuf, par rapport à toutes les agressions qu'on subit au quotidien, et surtout dans la famille ou dans la maison, quoi. Donc il y a ça, et le slam, c'est pareil, c'est aussi essayer de partager des stratégies en fait de lutte que j'ai pu trouver à force, quoi. Et puis ouais, ça fait du bien, je sais pas, de transformer aussi les choses que tu vis et d'en faire quelque chose de qui claque, quoi. J'ai pas envie de dire un truc de beau parce que je trouve pas forcément beau ce que je fais, mais j'aime bien quand ça claque, c'est violent, ça provoque des émotions chez les gens. En général, il y a beaucoup de gens qui sont au bord des larmes et qui... En fait, j'ai envie de partager ces émotions-là que j'ai ressenties avec le reste de l'humanité, quoi.
Et la boxe, tu la pratiques et tu l'enseignes à des femmes, à des adultes, à des gosses, à des ados?
Ouais, la boxe, en fait, je trouve que c'est un super levier d'émancipation, de prise de conscience, de plein de choses... j'ai commencé, ce que je veux vraiment, c'est développer la boxe féminine, parce que c'est le dernier bastion masculin comme sport, hein. La boxe, c'est là où il y a vraiment beaucoup beaucoup de mecs et ils lâchent pas, et quand il y a des meufs qui viennent dans les salles, moi-même je l'ai vécu, on m'excitait, on te laisse venir, mais on te fait comprendre que quand même, t'es pas un bonhomme et que tu vas pas faire des trucs de ouf en boxe, quoi. Enfin, on te remet à ta place souvent, il y a plein de choses. Après, c'est pas un milieu plus macho qu'un autre et tout ça, mais moi, j'avais envie de prendre leurs armes, là, et de les amener donc pour des publics, les femmes, les enfants d'abord.
Donc, t'enseignes à des enfants
aussi. Et donc, moi, j'enseigne la boxe éducative, voilà, et j'enseigne donc la boxe féminine adulte aussi. Et en fait, c'est des choses... Ouais, c'est un sport par lequel il y a beaucoup de transformations possibles et c'est flippant de voir des filles. J'ai une jeune fille qui a eu 8 combats, 8 victoires l'année dernière, 15 ans, elle est devenue féministe cette année-là, quoi. Tellement, en fait, elle a pris conscience de plein de choses, la réaction des autres. Par exemple, quand je dis que je fais de la boxe, tous les mecs sont là, ah, celle-là, faut pas l'embêter, quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es tellement lâche que tu vas pas te mesurer à une meuf qui sait se défendre? Enfin, moi, je trouve que c'est flippant sur l'état de la société, du machisme, etc. Mais...
Puis ça veut dire que toutes les autres, on peut les embêter.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le rapport de force qui bascule, tu vois, au moment où tu connais ta force et que tu sais un peu te défendre. C'est plus pareil. Du coup, la violence faite aux femmes, pour moi, c'est comme ça que je la combats, en tout cas. Mmh. Entre autres, quoi. Parce que c'est vrai, il y a des personnes qui sont bien dans les luttes, les manifs, les tracts et tout ça, mais... Moi, je me retrouve pas trop dans ces moyens de lutte, quoi. J'ai besoin d'être dans un truc de partage concret, de vivre des choses avec les personnes sur un long terme, quoi. Et c'est vrai qu'à la boxe, en général, c'est sur une année, c'est chaque semaine. Donc, il y a quelque chose qui peut se déconstruire, davantage, quoi.
Ouais, pas forcément qu'avec les mots, quoi, aussi avec le
et faire, oui, quoi. Voilà, c'est ça aussi, c'est que dans notre société, civilisation occidentale, toujours l'intellect, la raison, et en fait, moi, c'est pour ça que je développe beaucoup de choses par l'art et le sport, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent pas passer par la raison, ou qui vont toucher qu'une élite, ou je sais pas quoi, enfin, voilà, moi, ça m'intéresse pas, j'ai envie de parler à tout le monde, voilà.
On va peut-être bientôt
s'arrêter. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Un truc que tu n'as pas dit
Ben non, j'ai envie de dire juste les meufs écrivaient, boxaient, bougeaient, venaient nous rencontrer dans les manifs féministes aussi, dans les espaces, voilà. Je veux dire aussi que j'anime un atelier à la Maison des Femmes de Paris, donc si vous avez envie de partager ces armes qu'on a avec les mots, la poésie, la musique, voilà, c'est hyper important. Et puis mon club de boxe, il est à Villetaneuse, donc vous pouvez regarder sur internet et me contacter pour venir essayer. Et voilà, moi, ça, c'est des choses qui ont changé ma vie. Alors enjoy.
Bah, merci Audrey.
Merci
qui
beaucoup.
Qui est donc l'auteur de Girl Fight.
Donc Girl Fight, Audrey Chenu, et c'est les éditions...
Les Presses de la Cité.
Presses de la Cité.
الوطن كل شيء لو في للوطن عنوان عندي في الوطن جدران علم من البلد انا عندي للعلم الوان لو في للوطن عنوان كان العلم مدفون بعيون وجيوب وقلوب غزق من الشوق العلم مدفون بعيون وجيوب وقلوب خزقة من الشوق كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم مرفوع
عسلوك الكهرباء بالسر والليل يشهد للعلم
كان العلم مرفوع
عسلوك الكهرباء بالسر
والليل يشهد للعلم كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان للعلم ألوان وكان للعلم ألوان العلم مدفون بالطحين طالوا العلم أبيض طالوا العلم مهزوم دخلوا جنود عالدار شافوا العلم مدفون بالطحين طالوا العلم أبيض طالوا العلم مهزوم واخذوا الولد مجروح
السجن للرجال
بتهون عمر السجن
مار